Parcours sur Radio Orient avec Loïc Barrière.
Parcours avec la journaliste et romancière Nadia Atroubi-Safsaf. Bonjour.
Bonjour.
Qui êtes-vous, Nadia Atroubi-Safsaf?
C'est compliqué comme question parce qu'on a envie de dire plein de choses et en même temps, comme on a la radio, il faut synthétiser. Bah, je vais dire que je suis journaliste, rédac-chef, maman, de famille nombreuse, élue et accessoirement, j'essaie d'écrire des livres. Voilà.
Où êtes-vous née et où avez-vous grandi?
Alors, je suis née à Paris, 9e, et j'ai grandi à Palais-Royal, musée du Louvre. Et c'est pour ça que j'avais planté l'intrigue de mon premier roman si vous vous souvenez, parce que vous m'aviez interrogé sur ce livre, justement, dans les jardins du Palais Royal, parce que c'est un lieu qui est marquant dans mon enfance. C'est là où on allait jouer quand on était petit. Il s'est passé aussi d'autres choses plus tard, mais voilà, c'est un lieu marquant pour moi.
Le Palais Royal, c'est un des beaux quartiers de Paris. C'est le lieu où habitaient Colette, Jean Cocteau. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de ce Palais Royal? Place du Palais Royal.
On croisait beaucoup de personnalités et limite, pour moi, c'était normal de croiser ces gens connus ou que je voyais à la télé, que je recroisais après dans le quartier. J'ai l'impression que tout le monde vivait comme ça, en fait, que tout le monde avait des gens connus autour de lui. Et bon, plus tard, j'ai découvert Paris, le vrai Paris, Paris populaire. C'est vrai que là, on était un peu en vase clos, je pense. On était dans un milieu un peu privilégié. Alors moi, je n'ai pas grandi dans une famille privilégiée. Hein. Ma famille était modeste. Mais dans un endroit, dans un bel endroit, je pense que ça a aussi nourri notre soif de réussite parce qu'on avait envie d'être, je ne sais pas quel serait le bon adjectif, mais on n'avait pas envie de dépareiller, j'ai envie de dire. Donc il y avait aussi cette volonté de bien travailler à l'école pour faire presque comme tout le monde. Et en même temps, plus on grandissait et plus on se rendait compte que nous, on avait une soif de réussir qui était quand même plus importante que les autres parce que je pense qu'il y avait un côté revanche sociale très fort. Donc voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos parents, Nadia Atroubi, voilà. Safsaf?
Je vais pleurer là. Je commence à parler de mes parents. J'ai toujours du mal à parler de mes parents parce que je les trouve extraordinaires. Je pense que comme beaucoup d'enfants, surtout ma maman, qui est venue en France seule, ce qui est assez rare chez les Maghrébins, chez les femmes maghrébines. Donc elle est venue seule, elle a pris son destin en bandoulière. Et elle a franchi voilà, les mers et elle est venue construire une meilleure vie en France parce qu'elle était orpheline. Ça va être dur, j'ai les larmes qui montent déjà. Et donc elle a décidé de quitter son pays pour construire une nouvelle vie, démarrer une nouvelle vie en France. Donc elle arrivait en France, elle ne parlait pas français. Et elle a cherché du travail et elle était femme de ménage. Dans une famille qui, puis voilà, et petit à petit, elle a fait ses papiers, et puis elle a rencontré mon père, et puis elle s'est mariée, et voilà.
Et alors, comment vos parents se sont retrouvés au Palais Royal à Paris?
Alors, c'était un des employeurs de ma mère qui travaillait pas très loin, qui lui avait trouvé un logement. Et puis ensuite, mon père avait eu plusieurs possibilités d'avoir des logements par son travail en banlieue. Et donc, ils sont allés en banlieue et ils sont revenus catastrophés en disant non, on préfère rester ici. Voilà, au moins ici, ils se rendaient compte qu'il y avait de meilleures conditions de vie et de scolarité pour leurs enfants. Donc, ils ont préféré rester dans le centre de Paris, même si on était dans un appartement un peu plus petit, que d'avoir un plus grand appartement en banlieue. Et je me rappelle, on avait visité un appartement à Barbès. De fonction, enfin de, avec le pourcent patronal, pardon, et qui était très grand. Et mon père, sur le papier en tout cas, hein, il avait écrit presque 100 mètres carrés, donc ça me faisait rêver. Et puis on est arrivé dans le hall, et puis il y avait des jeunes qui fumaient du hashish. Et mon père a dit non, c'est pas la peine, je veux même pas visiter l'appartement. Je lui ai dit, mais papa, on est arrivé en bas, on le visite. Il a rien voulu entendre, il a dit non, moi, je veux pas que mes enfants y tournent mal. Et donc, on est reparti et on est resté au Palais Royal. Et ils y sont toujours.
Vous étiez l'une des seules filles maghrébines de l'école?
Non, on était quand même plusieurs familles, mais pas dans les mêmes rues, enfin assez dispersées quand même. Mais non, il y en avait quelques-unes. Mais c'est vrai que je n'avais pas le sentiment d'être maghrébine, par exemple. C'est bizarre hein, de dire ça, mais on ne se posait pas du tout la question identitaire, en fait. Nous, on était franco-tunisiens et on trouvait ça normal d'être franco-tunisien. Tu vois, on n'avait pas de question identitaire de est-ce que je suis plus français ou plus tunisien ou... Voilà, on ne s'était pas posé la question. C'est à la fac. C'est marrant parce que c'est à la fac de droit. Moi, j'ai fait une fac de droit. Et à la fac de droit, c'est une fille qui m'avait dit « Mais toi, t'es mat de peau. » Et alors là, tu sais, j'ai eu un choc parce que je ne m'étais jamais posé la question de ma couleur de peau. Ça paraît bizarre comme ça, mais vraiment, je ne m'étais jamais dit « Je suis différente. » J'avais l'impression d'être comme tout le monde. Et la première fois qu'on m'a vraiment renvoyé ma différence physique, en tout cas, c'était à la fac. Voilà. Après, il y avait une différence sociale, donc ça, par contre, dont j'étais très consciente à l'école, parce que mes camarades, ils allaient, l'hiver, ils allaient faire du ski. Nous, on allait souvent en Tunisie l'été, quoi. Mais...
À l'école, je crois savoir qu'une de vos enseignantes vous a marqué, Nadia Atroui-Safsaf, en évoquant devant vous le déterminisme social. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Ah, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Hein. C'était Madame Lelouch, en seconde, au lycée Sophie Germain. Vraiment, je m'en rappelle. Quand elle a expliqué ce que c'était le déterminisme social, il y a toutes les lumières qui se sont allumées, tu vois, dans ma tête. Et elle nous avait expliqué notamment que quand on était enfant de cadre, 76%, je crois, les chiffres exacts, je ne m'en rappellerai plus, mais que, en tout cas, la tranche, avait de réussir leur bac, les chances d'avoir leur bac, contre 6% pour les enfants d'ouvriers.
Là, ça vous a parlé ?
Moi, ça m'a parlé parce que je me suis dit, je me suis vue plus comme tout à l'heure, je parlais de mépris social et de discrimination sociale, ça m'a parlé parce que je me suis dit, ah ben moi, je dois faire partie de des 6%, en fait, des enfants d'ouvriers ou... Et je m'étais dit, ah, il faut vraiment que je m'accroche à l'école parce que j'ai que 6% de chance d'avoir mon bac. C'est bête, mais c'est un truc qui m'a... Oh, ça m'a fait flipper, quoi. Je me suis dit, non, il faut absolument que je sois parmi ces 6% d'enfants qui vont avoir leur bac. Puis en même temps, ça m'a éclairée sur plein de choses, d'injustice sociale, en fait. Parce que j'ai vu des élèves être orientés même dès la 5e pour faire des CAP, BEP, enfin des BEP plutôt en 5e, et ensuite en 3e. Et c'est vrai que je faisais partie des rares filles, en tout cas maghrébines, qui étaient parties en seconde générale.
Vos parents vous ont encouragé à étudier ?
Ah, mais c'était la pierre fondamentale de notre éducation. C'était l'école avant tout. C'est-à-dire que tu dis, j'ai des devoirs, c'est un sésame pour qu'on te laisse tranquille. C'était pour mes parents un truc non négociable, c'est l'école, il faut réussir à l'école. Ils avaient vraiment cette envie de nous pousser, de nous acheter des livres, de... Voilà, mon père, il lit un peu le français, ma mère pas du tout, mais il nous achetait tout le temps des livres pour nous pousser à lire, il nous emmenait à la bibliothèque. Par exemple, on allait se promener au Palais Royal, mais aussi aux Tuileries. Ma mère, elle essayait de nous emmener dans les musées. C'est une démarche vraiment pour qu'on soit imprégné de cette culture générale, puisse après nous servir pour l'école, parce que pour elle, tout était lié à l'école. Elle nous a mis à des activités, même périscolaires, comme le judo, pour être calme, avec un but, c'était de se dire tout ce qui peut les canaliser pour l'école.
Vous vous souvenez de livres qui vous ont marqué durant votre enfance ?
Ah, mais moi, j'adorais les enquêtes de Alice. Vous vous souvenez de Alice, détective privée ?
Ça me dit quelque chose, effectivement. C'était pas mes lectures, mais oui. Ça me dit quelque chose.
C'était la Bibliothèque verte. Et j'aimais bien le Clan des Sept, le Club des Cinq. Voilà, tout ça, c'était mon enfance. Et ensuite, c'est dans l'adolescence que j'ai commencé à lire, par contre, les auteurs maghrébins d'expression française, comme Mouloud Feraoun. Voilà, Mouloud Feraoun, par exemple, Le Fils du Pauvre, c'est un livre fondateur pour moi. C'est un livre fondateur. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, parce que je ne suis pas d'origine algérienne, mais j'ai l'impression qu'il parle à tous les enfants d'immigrés sur le besoin de réussite sociale. Quand ses parents se privent pour l'envoyer à l'école et qu'il raconte qu'il a ses pommes de terre qui sont emballées, qu'il déballe à chaque fois une pomme de terre comme dîner. Enfin, tout ça, ça me parle, quoi.
Quel lien gardez-vous avec la Tunisie ? On a parlé de la Tunisie, mais on n'a pas évoqué les villes, les villages que vous connaissez.
Ah bah, je connais assez bien la Tunisie, hein, puisque pareil, mes parents étaient soucieux qu'on connaisse bien notre pays d'origine. Donc, on a fait plusieurs fois le tour de la Tunisie en voiture. Donc voilà, ils avaient vraiment à cœur de nous faire connaître leur pays. Moi, j'y retourne. Bah, j'y retourne cet été. C'est un lien pour moi important. Puis c'est vrai qu'à travers mes fonctions de rédac chef, je suis avec attention ce qui se passe en Tunisie. J'ai des équipes en Tunisie, des journalistes permanents qui sont basés en Tunisie, avec qui j'échange régulièrement.
Votre famille est originaire de quelle région, précisément ?
Alors, mon père, à 30 km de Tunis, petite ville qui s'appelle Tebourba. Et ma mère de Garfoul, qui est un des berceaux d'où est partie la révolution de 2011. Et maintenant, notre berceau familial, en tout cas là où on passe tous nos étés, c'est à Rafraf, qui est à côté de Bizerte, qui est un petit village de pêcheurs.
Journaliste, c'est le métier que vous souhaitiez exercer quand vous étiez adolescente? Vous avez fait une fac de droit avec comme idée de devenir journaliste?
Alors, mon premier rêve, je voulais être pilote d'avion.
Il n'est jamais trop tard.
Voilà. Du coup, alors que c'est totalement bête parce que j'ai totalement la phobie des avions. Donc bon, voilà, là que j'en parle à un psy un jour. Je pense que c'est pour l'idée de pouvoir maîtriser le truc, d'accord. Ensuite, j'ai voulu être journaliste, après pilote d'avion. Sauf que mes parents trouvaient pas que c'était réaliste. Ils avaient l'impression que c'était un métier de carnet d'adresses, de réseau. Bon, ils avaient raison.
Un métier inaccessible.
Un métier difficile en tout cas quand on manque de réseau. Et donc, ils m'ont dit, mais tu veux être journaliste, avocat? Avocat, c'est mieux. Au moins, tu pourras t'installer, avoir ton propre cabinet. Il y avait cette vision d'être son propre patron. Donc, j'ai fait une fac de droit et j'ai détesté. Du coup, ensuite, j'ai fait une fac de lettres. Et je suis revenue à mes amours, qui étaient journalisme. Et bon, j'avais quand même lancé un journal à la fac de droit, un journal étudiant. Alors, vous voyez, ça n'a jamais quitté mon esprit, en tout cas. Je lisais Albert Londres. Je m'imaginais en Albert Londres. Bon. J'ai revu mes prétentions à la baisse depuis.
Qu'est-ce qui vous attirait quand vous étiez adolescente dans ce métier, qui est effectivement un très beau métier?
L'idée de dénoncer les injustices. Et c'est pour ça que finalement, j'hésitais beaucoup entre journaliste et avocat, parce que j'avais l'impression que l'avocat, même s'il ne les dénonçait pas, mais il les réparait.
Mais finalement, c'est un petit peu le métier que vous exercez. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, mais dans le Courrier de l'Atlas, vous défendez aussi certaines causes. Vous vous intéressez à des personnes dont on parle très peu dans d'autres médias.
Ou mal. C'est vrai que maintenant, j'aurais du mal à repasser dans un média mainstream, j'ai envie de dire, dans le sens où au Courrier de l'Atlas, j'ai quand même une liberté totale en tant que rédac-chef d'aborder des sujets dont on ne parle pas forcément. Par exemple, quand on parle d'Israël, de Palestine, on a une liberté de ton qui est plus difficile d'avoir dans d'autres médias, je pense, à part, bien sûr, Radio Orient ou d'autres médias pas communautaires. Je déteste ce mot, mais je dirais alternatif. D'ailleurs, c'est drôle parce que souvent, il y a des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux et qui me disent « on va signaler à votre employeur que vous êtes pro-palestinienne ». Ça me fait toujours sourire, je lui dis, vous pouvez y aller, il est encore plus pro-palestinien que moi. Donc, il va encore plus loin que moi dans ses propos. Donc, allez-y, ça ne portera pas préjudice. Enfin, je veux dire, tout ce que je dis est toujours factuel, je n'invente rien.
Nadia Atroubi-Safsaf, vous avez fait de nombreux voyages dans votre vie. Et parmi les voyages, je crois, qui vous ont beaucoup marqué, il y en a un, c'est le voyage en Palestine à l'âge de 27 ans. 2002, l'année de la deuxième intifada. Dans quel cadre et avec qui avez-vous fait ce voyage?
Alors, je suis allée en tant que journaliste. Donc, c'était un de mes premiers reportages, grands reportages, j'ai envie de dire. Et j'étais partie faire un article sur Israël et ses dérives sécuritaires. Et en même temps, suivre une initiative de femmes. C'était à l'époque Halima Boumediene, qui est Thierry, qui était députée européenne, qui m'avait embarqué dans ses bagages parce qu'elle avait organisé une délégation de femmes de gauche et pour la paix, pour le dialogue pour la paix. Et elles allaient rencontrer et des associations et de femmes palestiniennes et des associations de femmes pour la paix israéliennes. Et l'idée, c'était de les suivre. On a été reçus par Arafat. Il y a une photo que j'avais postée sur les réseaux sociaux. On a été reçu longuement par Arafat. Et comme les autres ne parlaient pas arabe et que j'étais la seule à parler arabe, on a beaucoup pu échanger. Puis il m'avait demandé de traduire. Donc c'était drôle parce que c'était un blagueur. Hein.
Vous avez des anecdotes
c'était drôle parce qu'il me dit dis-leur qu'elles sont belles. Mais, et après, il rigole et il me dit mais. C'est toi la plus belle, hein, quand même. Il était très flatteur parce que c'était des femmes âgées. Donc, il voulait qu'on les flatter et tout ça. Puis après, et en même temps, il me glissait des petits compliments. C'était drôle. Et il était très, très sensible. Moi, ça m'avait touché qu'il prenne le temps de nous recevoir. Et il ne nous a pas du tout expédié, quoi. Il a vraiment fait un temps d'échange. Et en fait, c'est lui qui nous a remercié en partant de l'honneur qu'on lui faisait de venir le voir, alors que nous, on voulait le remercier de l'honneur de nous avoir invités.
C'est un voyage, Nadia Atroubi-Safsaf, qui a changé votre perception du conflit israélo-palestinien?
Ça a été très difficile de reprendre une vie normale, entre guillemets. Nous, on a passé 10 jours là-bas. On a été à Gaza aussi. On a été à Ramallah, on a été à Hébron, on a été à Naplouse, on a été à Jéricho, on a été à Bethléem. Ça a été très intense, ne serait-ce que déjà en kilomètres, mais en plus en les checkpoints, l'attente, la faim aussi. Ce que je disais, hein, c'est la première fois que j'ai vraiment ressenti la vraie faim. Au-delà du le fait de faire le ramadan, mais d'avoir la vraie faim et de ne pas savoir quand on allait manger, c'était à Gaza. Pareil, là, j'espère que je ne vais pas me mettre à pleurer, parce que c'est encore des souvenirs. C'était dur de voir ces gamins aussi dans les camps qui n'avaient rien, qui étaient malades, qui avaient, je me rappelle, ils avaient des conjonctivites purulentes, ils n'avaient pas de médicaments. Des maladies, du coup, des enfants qui deviennent aveugles.
C'était encore pire que ce que vous imaginiez.
Oui. Avec le recul, je me suis dit, vraiment, je n'étais pas du tout préparée psychologiquement à voir ce que j'ai vu, quoi. Déjà, bon, les femmes qui étaient là, j'étais la plus jeune, hein, du groupe. Les femmes qui étaient là étaient âgées. Enfin, je veux dire, elles avaient du recul, elles étaient militantes et tout ça. Il y avait deux militantes qui étaient à peu près de mon âge. Elles aussi, on est resté en contact. Elles étaient revenues très choquées de ce qu'on avait vu parce que on a beau dire, on voit ça à la télé, il y a quand même un filtre. Enfin, voilà, c'est loin, c'est pas réel, c'est loin. Mais quand on le voit pour de vrai, des enfants qui ont perdu leurs parents,
ça vous a remis aussi en question sur le travail de journaliste.
Ouais. Je voulais arrêter. J'ai voulu arrêter parce que je me suis dit, c'est vain. Voilà, je suis venue. J'ai vu, je suis restée 10 jours et voilà, qu'est-ce que j'en fais ? Je fais rien. Ça, c'était dur de se dire, je fais rien derrière en fait. De laisser les gens, de se dire, voilà, j'ai vu des gens qui avaient faim, j'ai vu des gens qui étaient blessés, j'ai vu des gens fatigués, j'ai vu des gens. Et on revient chez nous et puis on a l'eau chaude en tournant le robinet, on a sur un bouton, on a l'électricité. Enfin, c'est terrible hein, de se dire, de l'autre côté, on les laisse comme ça, quoi. Vous voyez, 15 ans après, j'ai encore du mal à. Après, je suis retournée en 2005. Et là, je suis partie par contre au Liban. Et je suis partie à Sabra et Shatila, dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila. Donc là, j'étais un peu mieux préparée. Là, j'avais sollicité mes amis. Et ils avaient fait une cagnotte pour qu'on achète des médicaments, des fournitures scolaires. Et on a été donner tout ça aux responsables du camp pour participer à la rentrée, en fait. Parce qu'on avait demandé quels étaient leurs besoins. Et ils avaient besoin de cahiers, de stylos, de feutres. Et du coup, j'avais pas trimballer ça avec moi depuis la France. J'avais ramené de l'argent et j'ai acheté tout ça à Beyrouth. Et puis, on l'aura emmené. Voilà, d'essayer d'avoir des actions concrètes à notre petit niveau, quoi.
L'invité de Parcours est Nadia Atroubi Safsaf. On se retrouve dans quelques instants.
Parcours sur Radio Orient.
L'invité de Parcours est Nadia Atroubi Safsaf. C'est la suite de cette émission. Nous allons parler de vos livres tout à l'heure, mais il y a aussi un aspect que j'aimerais qu'on aborde, c'est votre engagement associatif, votre parcours citoyen, puisque vous avez été élu à la mairie de Cergy. Quand a commencé cet engagement ?
Alors, je ne pourrais pas le dater précisément, parce que j'ai l'impression que ça a toujours fait partie de moi. Je me suis toujours indignée de plein de choses, que ce soit au lycée, à la fac. J'ai toujours été indignée. Après, j'habitais encore le 2e arrondissement de Paris et Jacques Boutot m'avait proposé de faire partie de sa liste. Donc, Jacques Boutot, c'est le premier maire écolo de la ville de Paris. D'arrondissement. Et du coup, m'avait demandé de faire partie de sa liste et j'avais accepté, alors que j'avais déjà été sollicitée plusieurs fois par le Parti Socialiste. Mais c'était pour moi pas possible parce que pour moi, le Parti Socialiste, c'était pas. Alors, c'est pas le bon mot, j'allais dire imposture, mais non, c'était. Je leur en voulais sur les trahisons faites aux enfants de la gauche. Voilà, pour moi, c'était pas possible de rejoindre le Parti Socialiste, même s'il y avait des valeurs que je partageais, les valeurs de gauche. Mais ce n'était pas possible pour moi. C'était la spoliation de la marche de l'égalité et contre le racisme en 1983. C'était les promesses non tenues de François Mitterrand. C'était l'engagement
sur le vote des immigrés.
Des étrangers. Parce qu'à l'époque, mes parents n'étaient pas encore français, donc ils n'avaient pas de voix au chapitre, alors que, voilà, ils travaillaient et participaient aux charges du pays, enfin, aux charges sociales, aux cotisations. Donc, tout ça me révoltait. Donc, j'ai rejoint la liste écolo et c'est là que j'ai commencé à militer. Je me retrouvais beaucoup sur les questions de la Palestine, notamment chez les Verts, parce qu'à l'époque, ça s'appelait les Verts. Maintenant, ça s'appelle Europe Écologie Les Verts. Et voilà. Puis, quand j'ai déménagé, que je me suis retrouvée à Cergy, j'ai pas tout de suite repris ma carte chez les écolos, mais on a eu un bon contact avec le maire qui était en poste et qui était en poste depuis que quelques mois à la faveur d'une démission. Enfin bref, il était venu à une dédicace en fait de mon livre Immigration plurielle et témoignages singuliers parce qu'il souhaitait me rencontrer. Et à l'issue de ça, on a eu un échange et il m'a proposé de rejoindre un collectif citoyen. Donc c'était pas encore pour rejoindre une liste. C'était vraiment un collectif citoyen pour réfléchir à son programme. Il avait souhaité que ce ne soit pas justement des gens qui étaient déjà élus, mais des gens neutres, enfin, pas neutres, mais en tout cas...
De nouveaux visages,
voilà,
en tout cas.
Voilà, de nouveaux visages, de nouvelles voix. Et donc, on se réunissait tous les samedis matins pendant un an. Et à l'issue de cette année, voilà, il m'a proposé de rejoindre sa liste. Et du coup, j'en ai parlé aussi avec les écolos et on s'est dit, voilà, on sera un groupe écolo dans une liste de gauche rassemblée. Et donc, voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça.
Et vous qui vous êtes souvent indigné, quand vous avez eu des responsabilités, vous avez eu le sentiment de pouvoir améliorer la vie des gens?
Alors, ça, c'est le sentiment que j'avais avant d'être élue. Et rattrapé par le principe de réalité, on se rend compte que c'est... On fait notre mieux. Mais c'est compliqué parce qu'il y a le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'État a choisi de baisser ses dotations aux collectivités territoriales, notamment ceux des quartiers, les banlieues de Paris, qui sont dans les villes les plus pauvres de France, avec des taux de chômage chez les jeunes qui bat des records. Du coup, il y a plusieurs choses, hein, c'est le travail, mais le logement. Et quand, pareil, on a des situations, là, on ne le fait plus, parce qu'on a expliqué au maire que c'était compliqué pour nous en tant qu'élus. Il nous avait demandé de participer à tour de rôle, à une permanence avec les habitants qui venaient nous expliquer pourquoi ils avaient besoin d'un logement social. Sauf que nous, on était là dans l'écoute, on prenait des notes, mais on n'avait pas de suivi du dossier. Donc, on ne savait pas si finalement... ça aboutissait et surtout, on n'était pas formés à l'écoute. Et en fait, c'est des assistantes sociales qu'il faudrait parce que c'est des gens qui arrivent. Il y en a, ils sont désespérés. Ils vous expliquent qu'ils vivent avec des cafards. Ils vous montrent les photos, ils vous montrent des vidéos de cafards qui courent partout et qui sont à 7, 8 dans 12 mètres carrés. Enfin, des situations tellement difficiles. Après, j'ai pris l'extrême, mais voilà, c'est compliqué. Et là, les élus, c'est compliqué aussi parce que quand tout va bien, bah, c'est génial, mais quand ça va mal, bah, c'est la faute des élus. Alors que bon, nous, on essaye de changer les choses à notre niveau.
Vous vous engagez, je crois, aussi auprès des maires isolés.
Alors, en fait, ça, c'était un engagement vraiment perso à part, enfin, pas du tout mairie. J'essaye d'aider, oui, des mamans isolées et surtout beaucoup les femmes victimes de violences, en fait, qui ont du mal à quitter le logement familial. Parce qu'elles ont du mal à quitter leur mari violent. Alors, moi, je ne leur dis pas de quitter leur mari. Je ne suis pas là pour dire ce qu'elles doivent faire, mais j'essaye de les accompagner, une fois que leur décision elle est prise, de les accompagner pour porter plainte, rédiger des dossiers. Mais ça, je l'ai vraiment fait à titre personnel. Et j'avais fait un message Facebook il y a quelques mois pour dire que je ne pouvais plus, j'y arrivais plus, parce que j'absorbe. Et en même temps, moi, je ne suis pas formée pour absorber. C'est dur d'essayer d'aider tout le monde, et puis des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, puis des fois elles changent d'avis, des fois elles retournent avec leur mari, et nous on a passé beaucoup de temps, d'énergie à essayer de trouver un logement, à essayer de monter un dossier, et voilà, maintenant je dirais...
Des situations humaines très complexes.
Voilà, et en fait moi je m'impliquais beaucoup, donc mon mari me disait, mais c'est pas possible, tu peux pas donner ton portable comme ça à tout le monde, parce que j'avais des gens qui m'appelaient à n'importe quelle heure, et qui me demandaient de l'argent, que j'essayais de dépanner et tout. Et je me retrouvais dans des situations où je ne savais pas dire non. Et donc complètement débordée, même de trier chez moi, d'avoir plein de vêtements à redistribuer, à trier. Et du coup, bon, même mes enfants m'ont fait comprendre, parce que maintenant mes filles, elles sont grandes, qu'elles aimeraient bien aussi que je sois un peu, que je sois plus présente pour elles et moins pour faire ce genre de choses, quoi.
En 2012, vous publiez un essai « Immigration plurielle, témoignage singulier » aux éditions Les Points sur les i. Sur la couverture, on voit un ouvrier du bâtiment en train de travailler. Vous aviez envie de rendre hommage à ces étrangers qui ont construit la France et qui sont aussi des Français.
Et qui font qui ont construit la France, qui font la France. Et c'était important pour moi dans le livre. Alors, les gens s'attendaient à que ce soit, par exemple, que des témoignages d'Arabes, de Noirs. Non. Il y a aussi un Espagnol qui est décédé depuis, une dame polonaise, une dame portugaise. L'idée, c'était de rappeler toutes ces immigrations qui ont fait la France. Et pareil, des parcours de vie extraordinaires. Là, je repense au témoignage de José, qui a traversé les Pyrénées à pied pour fuir le franquisme. Je repense à Anna, qui a été... déportée vers le travail obligatoire en Allemagne et qui, à la fin de la guerre, se retrouve du mauvais côté du mur et qui, du coup, est obligée d'immigrer en France alors que sa famille est restée en Pologne. Enfin, des histoires de vie extraordinaires. Elle a revu sa mère qu'au bout de 26 ans. Je me rappelle, moi, ça m'avait marqué de me dire comment je pourrais pas ne pas voir ma mère pendant 26 ans. C'est des histoires dures et des belles histoires en même temps, d'abnégation, de... Et j'aurais tellement voulu faire raconter l'histoire de mes parents, mais ils sont très pudiques. Et donc, ils ne voulaient pas raconter leur histoire, notamment ma mère. Alors que je vous dis, ce que je vous disais au préalable, elle a une histoire extraordinaire, parce que c'est assez rare qu'une femme maghrébine vienne. Et du coup, voilà, je lui ai dit qu'un jour, je le ferais sous forme de roman, et elle m'a dit non, qu'à ma mort.
Vous avez publié un livre sur la marche pour l'égalité, plus connu sous le nom de la marche des beurs. J'imagine que c'est une expression qui vous irrite. 1983, une date importante dans l'histoire des Français héritiers de l'immigration maghrébine. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
Voilà, 5 ans plus tard, tout le monde a entendu parler de la marche parce qu'il y a eu le film avec Jamel Debbouze, il y a eu pléthore de livres qui sont sortis entre-temps. Sauf qu'avant 2012... La marche, personne ne savait ce que... Enfin, personne. Les militants, quoi. Les militants savaient ce que c'était, le grand public, vaguement. Et du coup, j'avais déjà cette envie de devoir de mémoire, de transmission, qu'on retrouve dans tous mes livres. S'il y a un point commun dans tous mes livres, c'est vraiment cette idée de transmission. Du coup, voilà, je voulais rappeler aussi, et à la fois cette date importante, qui est celle du 2 décembre 1983, l'arrivée de la marche à Paris, et raconter... de manière simple et facile, 30 ans de lutte. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de livres de sociologie sur le sujet, mais pas de livres grand public. Et j'ai essayé de faire des chapitres qui se lisent indépendamment et qui soient faciles à lire. Et c'est le retour que j'ai eu, c'est que c'était quand même très facile à lire. Après, il y a des chapitres qui n'ont pas plu, comme un chapitre que j'avais fait sur Ni pute ni soumise, où j'ai trié joyeusement Fadela Amara. Voilà. Mais je suis droite dans mes bottes et je ne retire pas une virgule de ce que j'ai écrit.
Finalement, on parle beaucoup de mai 68, on parle moins de cette marche pour l'égalité, même s'il y a eu des livres en plus du vôtre, mais quand même, le grand public, à mon avis, ne sait pas tout ce qui s'est passé cette année-là.
Mais je pense que c'est les prochaines générations qui s'empareront de cette date, qui se rappelleront, qui se diront, on a eu des éléments fondateurs. Mais en même temps, c'est compliqué parce que cette date, elle marque aussi le grand malentendu qu'il y a entre les générations d'enfants d'immigrés et l'État et le gouvernement. C'est-à-dire que là, François Mitterrand, qui était le président de la République de l'époque, leur dit « Je vous ai compris et on va vous octroyer la carte de séjour de 10 ans ». Mais eux, ils ne sont pas venus demander la carte de séjour de 10 ans, ils sont français. Ils sont venus demander l'égalité. Donc voilà, on en est encore là. Ils demandaient l'égalité, on leur donne la carte de séjour. Donc déjà, il y a un malentendu. Ensuite, c'est la spoliation du mouvement beurre, même si je déteste ce mot, par justement... pas les sbires, mais presque, du Parti Socialiste, Julien Drey. Il y a un hold-up et il y a comme ça la création de SOS Racisme et qui a vidé de son sens et de substance la marche pour en faire un truc très policé, j'ai envie de dire, alors que les revendications étaient quand même beaucoup plus contestataires.
Autre livre, Nadia Atroubi Safsaf, La seule chose à briser, c'est le silence. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des femmes victimes de violences conjugales. Comment vous avez été sensibilisée à ce problème?
Parce que d'abord, j'ai eu beaucoup de femmes autour de moi que je voyais victimes de violences, qui avaient honte et qui se sentaient fautives. Et ce que je leur expliquais, que ce n'était pas elles qui étaient fautives, c'était l'homme qui levait la main sur eux qui était fautif, mais surtout pas elles. Et donc, ça me rendait folle de colère, en fait, de voir ces femmes, souvent qui étaient belles, brillantes, intelligentes, qui devenaient une petite chose, toute rabougrie, parce que elles avaient en face un homme qui acceptait pas que leur femme soit belle, intelligente et qui essayait tout le temps de les rabaisser. D'abord, ça commence souvent par des paroles. C'est classique. Ça commence par des paroles. Ça commence par un isolement. On éloigne la famille, on l'éloigne de ses amis. Puis ensuite, il la bat. Et donc, à ce moment-là, quand on arrive à ce stade-là, elle a déjà plus personne autour d'elle. Elle a personne à qui se confier puisqu'elle est isolée. Elle a perdu confiance en elle. Elle a perdu son travail, ou elle a démissionné, ou elle s'est mise en retrait dans son travail, parce qu'elle a une totale perte de confiance en elle. Pour elle, elle est rien, elle est nulle, c'est ce qu'il lui dit toute la journée. Donc voilà, je voulais dire à toutes ces femmes-là que non, elles n'étaient pas nulles, que c'était l'homme en face d'elles qui était nul, crétin. Et j'ai embarqué dans cette aventure des amis. Donc, on ne se connaissait pas à l'époque, sinon je vous aurais proposé d'écrire une nouvelle. Et on a, sous forme de nouvelle, on a parlé de violence. Donc, il y a le viol conjugal, il y a l'inceste, il y a, voilà, y a l'alcool. Enfin, vraiment.
C'est le premier passage à la fiction dans votre travail, puisqu'au départ, vous avez commencé à écrire des essais.
Oui, mais parce que pareil, c'était. J'avais plein de bouts de manuscrits dans les tiroirs, mais j'avais peur. D'abord, j'avais le sentiment d'imposture, de me dire que pourquoi moi j'écrirais des livres. Du coup, les essais, c'était plus facile parce que c'était la continuité de mon travail journalistique, dans le sens où un journaliste qui écrit un essai, c'est banal.
Donc, il a fallu que vous vous donniez l'autorisation de devenir romancière.
J'ai encore du mal, je ne me qualifie pas de romancière. J'aurais l'impression d'usurper le titre. Je ne me sens pas encore légitime, en fait. Et là, par exemple, je termine mon livre et j'ai du mal parce que j'ai l'impression que c'est nul. Donc, j'efface, je recommence et je me dis mais arrête d'imaginer que tu es un auteur, un écrivain, un romancière. Et il y a le doute qui revient. Et puis
j'imagine que tous les auteurs ont ces doutes. Vous n'êtes peut-être pas isolé dans.
Ah ouais, j'imagine. J'imagine qu'on est tous comme ça. Mais. Quand on est petit auteur, moi je suis dans une petite maison d'édition, donc je pense qu'il y a aussi encore plus ce sentiment de se dire je suis un petit auteur. Quoi.
Alors vous avez écrit un roman, Ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants, aux éditions Zellige. Vous avez dit dans une interview que pour dépasser les préjugés entre juifs et musulmans, il fallait se tourner vers l'histoire. Comment est né ce livre qui évoque à la fois la Shoah et le conflit israélo-palestinien.
Et le 17 octobre 61, qui est un moment très important. Je suis tombée sur un tract, en faisant des recherches, je suis tombée sur un tract qui disait « Hier à l'aube, on a arrêté nos frères, en gros, parce que je ne me rappelle plus du tract, mais on a arrêté des enfants et des vieillards, et que nous, en tant qu'indigènes, parce qu'à l'époque, en 1942, quand je dis nous, c'est les Algériens, les Tunisiens, même si moi je suis franco-tunisienne, ils étaient considérés comme des indigènes, parce que c'était encore sous protectorat pour la Tunisie et le Maroc, et les Algériens étaient d'un département français, mais colonisé. Et en fait, ce tract appelle les indigènes à prendre sous leur protection les Juifs qui sont persécutés par l'Allemagne nazie. Et c'est au lendemain de la rafle du Veldiv. Et j'ai trouvé ça tellement beau, dans le sens où aujourd'hui, on nous rabâche les oreilles sur le bien vivre ensemble, sur le fait que c'est important de bien vivre ensemble. Et pour moi, c'était important de montrer que on vivait bien ensemble, justement. Cet exemple de fraternité, au-delà des religions, que, voilà, c'était juste d'être humain à être humain. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire parce que j'entends beaucoup de clichés aussi sur l'islam, les banlieues. Les Arabes sont considérés comme antisémites. Donc ça me rendait dingue d'entendre ça, de dire l'antisémitisme des banlieues. Alors pour moi, c'était important de rappeler aussi l'histoire de France et de dire qu'il y a eu un antisémitisme très fort en France qui a permis justement l'arrestation de nos compatriotes juifs. Parce que s'il n'y avait pas eu cet antisémitisme, on n'aurait pas pu déporter ces enfants, ces vieillards, ces femmes, ces hommes. Donc il y avait une bête, la bête immonde était déjà en nous. Donc j'avais, voilà, pour moi c'était important de le dénoncer et de le déconstruire et de montrer aussi qu'il y avait eu cette fraternité-là et qu'aujourd'hui, je suis persuadée qu'il peut y avoir cette fraternité si les médias, et je suis malheureusement convaincue de ça, on a une responsabilité très forte dans ce qu'on montre. Et je pense qu'on montre toujours ce qui ne va pas. Hein, on le dit bien en école de journalisme, hein, les trains à l'heure, ça n'intéresse personne. Alors là, il ne s'agit pas de montrer des trains à l'heure, mais il s'agit de montrer des actions et des initiatives positives, de bien vivre ensemble, de choses, voilà, de dire voilà, dans cette ville, les gens vivent très bien ensemble et ça se passe très bien. Plutôt que de monter en épingle tous les événements. Souvent, en plus, on s'enflamme. Je repense à l'agression du RERD qui a été voilà, partout, antisémitisme, et en fait, quand elle avait inventé, et ça a mis de l'huile sur le feu, je pense que nous, médias, on devrait aussi avoir une responsabilité sur ce qu'on écrit, sur ce qu'on dit, et de se dire, est-ce que ça fait avancer le débat, ce que je vais faire, plutôt que de, est-ce que je vais mettre de l'huile sur le feu.
Quand on regarde la liste de vos livres, Nadia Atroubi-Safsaf, il y a une vraie cohérence. Tous ont un rapport avec la mémoire de l'immigration. On sent un attachement à la génération de vos parents en particulier. Vous aviez anticipé ce travail ?
Non. Mais c'est fou parce que, évidemment, maintenant, j'en ai conscience. Donc, c'est bizarre. Mais non, je m'en suis rendu compte à partir du troisième, enfin, du roman. Je me suis dit, ah, mais vraiment, moi qui rabâche tout le temps aux autres, c'est important de se souvenir. Finalement, je l'ai appliqué, mais inconsciemment. Hein. Je veux dire, c'est tellement en moi de se dire que c'est important de savoir où on va, qui on est, de donner des exemples positifs. Parce que je pense qu'à nos jeunes, si on leur donne des exemples positifs de héros, ça les valorise. Et ça leur fait. Quand on leur dit, il y a eu des résistants noirs, il y a eu des résistants maghrébins, il y a eu des tirailleurs sénégalais et tout, ils se souviennent qu'eux aussi, leurs ancêtres ont participé au roman national. Et tout de suite, on crée un sentiment d'appartenance. Nous aussi, on a participé à l'histoire de France. Et tout de suite, je pense que ça change le rapport à l'autre, à la citoyenneté en tout cas.
Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Nadia Atroubi-Safsaf ?
De vendre plein de livres, de finir le prochain déjà, et puis oui que ce livre trouve son écho, parce que le roman a trouvé son écho petit à petit, même si c'était une petite maison d'édition, il continue aujourd'hui à vivre son chemin, et ça me touche beaucoup. Et là, le prochain, c'est sur une histoire de tirailleurs sénégalais, justement, donc j'espère qu'il trouvera son chemin.
Merci Nadia Atroubi-Safsaf, vous êtes romancière et journaliste et vous étiez l'invitée de Parcours.
Merci beaucoup.
C'était Parcours sur Radio Orient.